C'est une conférence donc sur la fiabilité de Wikipédia. On va aussi aborder d'autres sujets, comme par exemple l'organisation interne de l'encyclopédie. Donc déjà, est-ce que parmi vous, il y en a qui ne connaissent absolument pas Wikipédia et son fonctionnement notamment ? Vous pouvez lever la main. Bon, c'est pas grave, hein, si... Bon, alors du coup, on va axer cette conférence sur plusieurs sujets. On va commencer par une description générale du projet Wikipédia. Ensuite, on va aborder les différentes procédures et le fonctionnement général. Et puis pour finir, on va parler de la lutte contre le vandalisme et tout ce qui est fiabilité, donc le sujet premier de cette conférence. Et on va diviser ça en deux parties. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la Wikimedia Foundation. La Wikimedia Foundation, en gros, c'est l'organisation qui entretient Wikipédia. Elle est dépositaire de la marque Wikipédia. Et il faut savoir qu'à côté, il y a pas mal d'autres projets libres, tous des projets libres, qui sont également entretenus et financés par la Wikimedia Foundation. Donc c'est une association internationale dont l'objectif est justement de promouvoir la culture libre. Alors comment s'organise cette fondation ? Elle a un siège aux États-Unis et puis ensuite elle a des antennes nationales. Alors c'est très important de savoir que ces antennes nationales sont autofinancées, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas directement de la Wikimedia Foundation, ce sont des organisations indépendantes. Le rôle de ces antennes nationales, alors pour résumer, c'est de coordonner les actions de terrain visant à promouvoir Wikipédia ou à former les gens à son utilisation. Ensuite, ces antennes nationales-là, elles sont divisées en groupes locaux, donc par région, qui sont donc composés par des bénévoles actifs dans plusieurs domaines, comme l'éducation, la recherche ou la photographie pour alimenter les bases de données Wikimedia Commons, qui sont des bases de données de médias, dont des photos, des vidéos et des médiasons. Alors là, vous pouvez voir tous les différents projets chapeautés par la Wikimedia Foundation. Alors j'imagine que vous ne les connaissez pas tous, non ? C'est normal, il y en a qui ne servent pas à grand-chose. Et donc les principaux, c'est Wikipédia, ça normalement tout le monde connaît, et Wikimedia Commons, qui est celui juste en dessous à gauche, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, une médiathèque géante avec plusieurs millions de photographies, qui est notamment utilisé par la presse. Et toutes les images de cette médiathèque sont sous licence libre, bien sûr. Alors, comme vous pouvez le voir, on a quelques problèmes de présentation, hein, parce qu'à la base, c'était un PowerPoint. Du coup, voilà. Donc, on va attaquer la deuxième partie, qui est la description du projet Wikipédia. Alors, Wikipédia est un projet d'encyclopédie universelle, ça, je pense que tout le monde était au courant. Multilingue, donc en 287 langues, ce qui fait beaucoup, et sous licence libre. Elle a été créée par Jimmy Wales et Larry Sanger, excusez-moi pour mon anglais, mais le 15 janvier 2001. C'est un wiki et il est accessible sous le nom de domaine wikipedia.org avec les deux initiales de la langue juste devant, donc fr.wikipedia.org, ES, etc. Ce wiki-là, il est hébergé sur Internet grâce aux serveurs qui sont financés par la Wikimedia Foundation, donc l'organisation internationale, qui est une organisation à but non lucratif américaine et qui est dépositaire de la marque Wikipédia. Donc, ils ont tous les droits sur Wikipédia. Il faut savoir que le logo de Wikipédia est sous copyright. N'importe qui accède au site peut modifier la quasi-totalité des articles de Wikipédia. On verra tout à l'heure qu'il y en a certains qui peuvent pas être directement modifiés. On appelle ça des articles protégés ou semi-protégés. Et il est important aussi de savoir que Wikipédia est le 6e site mondial, donc un des plus importants au monde, en termes de fréquentation, et constitue la plus grande encyclopédie numérique mondiale. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Wikipédia existe dans 267 langues, notamment des langues régionales, comme le breton. Hein, Wikipédia en breton, bon, il doit y avoir à quoi 1000 articles, mais c'est déjà un bon début. Et toutes ces Wikipédias-là, régionales, sont donc en cours de développement, parce que c'est des projets qui sont beaucoup plus récents que les grandes Wikipédias, comme Wikipédia en français, qui a été créée en 2001. Donc, ce que vous pouvez voir là à droite, je ne sais pas si vous pouvez très bien le voir, c'est un peu flouté, mais c'était Wikipédia le premier jour où le site a vu le jour, donc c'était présenté sous cette forme-là. C'était pas très beau, ça a bien évolué depuis, mais c'était comme ça à la base. À gauche, vous avez la phrase un peu représentative de Wikipédia, qui est utilisée sur la plupart des flyers qui sont distribués au grand public, qui est en quelque sorte, non pas le slogan officiel, mais plutôt officieux de l'encyclopédie. Alors là, c'est la première version de Wikipédia en français, qui a été lancée donc le 11 mai 2001. Alors, on va parler maintenant des différents posts sur Wikipédia. Faut savoir que l'écriture d'articles, c'est bien sûr le point principal de cette encyclopédie, mais il y a aussi pas mal d'autres personnes à côté qui s'occupent par exemple de vérifier les articles, de les sourcer. Alors, il y a les patrouilleurs, ça on en parlera plus en détail tout à l'heure parce que c'est assez compliqué. Les wikigraphistes, c'est ceux qui s'occupent de créer par exemple tout simplement les graphiques représentatifs sur certains articles d'une évolution ou quoi que ce soit, enfin des graphiques quoi. Et d'autres éléments visuels pour illustrer des données. Les sourceurs, qui s'occupent d'ajouter des sources sur les articles. Les parrains et les marraines, alors ça on en parlera aussi plus en détail tout à l'heure. C'est des gens qui vont aider les nouveaux à s'adapter à Wikipédia. Alors ensuite, les wikignomes ou wikifées, c'est des noms un peu originaux. C'est des gens qui font beaucoup de petites modifications. Alors par exemple, des corrections de fautes d'orthographe ou des petits ajouts de mots. Des fois, on oublie des mots quand on écrit des articles. Donc eux, ils s'occupent en quelque sorte de relire les articles. Ensuite, les wikifourmis, qui s'occupent de la catégorisation des différents articles, donc pour qu'on y accède plus facilement. Et puis les ébaucheurs, alors ce sont des gens qui créent ce qu'on appelle des ébauches, on verra ça plus en détail tout à l'heure aussi. Mais en gros, c'est des articles qui sont incomplets, avec peut-être une photo, une introduction et une petite présentation, par exemple pour une personnalité politique, dans le but que d'autres Wikipédiens arrivent ensuite pour les compléter. Alors il faut savoir que sur Wikipédia, il y a 4 principes fondateurs. Alors officiellement, il y en a 5, mais on verra que le 5e, c'est pas vraiment un principe fondateur, c'est plutôt ça définit l'encyclopédie en elle-même. Ces principes fondateurs, ils fixent les grandes lignes qui définissent le fonctionnement interne de Wikipédia, et ce sont des règles qui définissent finalement Wikipédia, et ce sont des règles intangibles. Voilà. Donc ces principes fondateurs, ce sont que Wikipédia est une encyclopédie. Alors ensuite, la neutralité de point de vue, obligatoire sur Wikipédia. Que le contenu soit sous licence libre, et puis Wikipédia suit des règles de savoir-vivre, alors qu'ils sont résumés et qui sont très très compliqués. Le 5e, donc, c'est que Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes. Alors, les différents utilisateurs de Wikipédia, en termes de statut, on a les utilisateurs anonymes, donc les adresses IP, et les utilisateurs enregistrés, ceux qui ont créé un compte, c'est la base de l'encyclopédie, ce sont les contributeurs. Ensuite, il y a les administrateurs. On reviendra plus en détail sur ce statut-là tout à l'heure. Les bureaucrates, qui sont des administrateurs améliorés, en fait, qui donnent leurs droits aux administrateurs. Les arbitres, alors ça aussi, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Les check users sont des utilisateurs. Sur Wikipédia, on a interdiction d'avoir plus de 3 comptes utilisateurs. Il y a des gens qui créent énormément de comptes afin de pouvoir vandaliser l'encyclopédie. L'objectif de ces utilisateurs-là, qui ont donc des droits et des outils, c'est de vérifier si tel ou tel compte utilisateur n'est pas issu de la même adresse IP, finalement. Et puis ensuite, les bots, qui sont des robots informatiques, et puis à qui on confie énormément de tâches ingrates à réaliser. Alors, les arbitres, ce sont des bénévoles. Il n'y a pas de salariés sur Wikipédia, les salariés ils entretiennent les serveurs. Les arbitres sont des bénévoles qui interviennent dans la médiation sur Wikipédia. Ils sont élus par la communauté et ils sont chargés de régler différents conflits entre des participants. Leur rôle, c'est de s'assurer que tous les moyens de médiation sont mis en œuvre pour arriver à trouver un consensus. Ces moyens de médiation, alors, ils sont très basiques, c'est-à-dire que il y a des bénévoles qui sont médiateurs, qui vont intervenir sur un conflit pour donner un point de vue neutre, essayer de trouver une solution. Et puis il y a le salon de médiation sur Wikipédia, qui est une page où tout le monde peut débattre pour essayer de trouver un consensus sur tel ou tel problème communautaire. Alors maintenant, les administrateurs. Les administrateurs, ce sont des utilisateurs qui ont pour rôle de vérifier un peu tout ce qui se passe sur l'encyclopédie et de veiller au bon fonctionnement de celle-ci. Donc pour ça, ils ont plusieurs outils à leur disposition. Ils peuvent protéger et déprotéger des pages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une page protégée ? On verra ça tout à l'heure. Par ailleurs, ils peuvent aussi supprimer directement des pages et les renommer. Avec un titre déjà utilisé par une autre page, parce que tout le monde peut renommer une page. Ils peuvent consulter et restaurer des pages et des images qui ont été supprimées. Et puis, ils peuvent masquer différentes versions de l'historique d'une page. C'est-à-dire que quand vous allez sur l'historique, normalement, vous pouvez voir toutes les modifications qui ont été apportées à une page sur Wikipédia. Ben, ils peuvent masquer certaines versions. Et puis, surtout, ils peuvent bloquer et débloquer des utilisateurs. Et ils peuvent se débloquer eux-mêmes. En cas de... Donc, il faut savoir que sur Wikipédia, les administrateurs représentent 2% des utilisateurs actifs, hein, non pas de tous les utilisateurs, mais seulement des utilisateurs actifs. Il y en a 185 sur la Wikipédia francophone et 1452 sur la Wikipédia anglophone. Et ils sont bien sûr élus par la communauté. La communauté peut aussi lancer des procédures de révocation du statut d'administrateur, donc s'ils font n'importe quoi avec leurs outils, on peut leur enlever. Alors là, vous avez une image d'une opération de maintenance effectuée par un administrateur. Donc, comment ça se passe? Ils ont, eux, des outils supplémentaires, que vous voyez là à droite. Donc, supprimer la page, renommer la page ou la protéger. Ensuite, ils donnent le motif de suppression. Et puis, ils appuient juste sur un bouton et ça supprime directement la page en question. Les parrains et les marraines. Donc, le service de parrainage des nouveaux. Quand un nouvel utilisateur arrive sur Wikipédia, pour l'aider à se familiariser aux différentes règles de savoir-vivre et au fonctionnement de Wikipédia, il peut demander un parrain ou une marraine, qui va être un utilisateur plus expérimenté que lui, et qui va l'aider à débuter finalement et corriger ses erreurs. Alors il y a des parrains et des marraines qui interviennent sur différents sujets, en fonction des sujets sur lesquels le nouvel utilisateur veut contribuer. On va parler maintenant des différentes procédures sur Wikipédia. Alors moi, je considère qu'il y a trois grandes familles de procédures sur Wikipédia. La première, ce sont les procédures communautaires, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs lambda qui vont décider de ce qu'il faut faire. Donc il y a les élections d'administrateurs, les élections d'arbitres, et les procédures de PAS, c'est-à-dire page à supprimer. On verra ça plus en détail tout à l'heure aussi. Ça, ce sont des procédures où c'est la communauté qui vote. Ensuite, il y a les procédures traitées par les administrateurs. Donc ça peut être des demandes de blocage, des demandes de suppression immédiate de pages. On verra plus tard dans quel cas ça peut être effectif. Et des demandes de restauration de pages. Et puis ensuite, il y a les procédures incroyablement compliquées. Comme par exemple la règle des trois révocations. On verra ce que c'est tout à l'heure aussi. Alors, la règle des trois révocations. Quand il y a deux utilisateurs qui sont en conflit, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de se révoquer mutuellement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va imposer son point de vue, le second va le révoquer, et puis ainsi de suite. Ça peut durer. Moi, j'ai eu, en tant que patrouilleur, j'ai vu des règles des trois révocations qui duraient pendant plusieurs années. Donc, heureusement, on a réussi à apporter, comme j'ai dit tout à l'heure, des moyens de médiation, parce qu'avant, c'était vraiment n'importe quoi. Alors, les sujets conflictuels. Vous voyez là-haut un graphique qui représente le nombre d'articles par sujet sur Wikipédia. Donc, alors, en gros, les sujets dominants, c'est la culture et les arts, les biographies, la géographie, la société, l'histoire et les sciences. Et puis, en tout petit derrière, il y a la philosophie et tout ce qui est religieux. Ensuite, juste en dessous, vous avez le graphique des sujets conflictuels, et on voit que 60% des sujets conflictuels, ce sont tout ce qui est en rapport avec la religion et la philosophie. Donc vous avez deux petites parts de 1% là, des articles qui sont la philosophie et les articles sur, les, sur, des, sur, les, sur la religion, qui représentent 60% des conflits d'intérêts sur Wikipédia. Donc ça prouve qu'il y a des sujets qui sont très conflictuels, parce que c'est vrai que pour adopter un point de vue neutre sur des questions de religion ou de philosophie, bon, c'est assez compliqué. Alors, il y a différents atouts sur Wikipédia. C'est que toutes les connaissances humaines sont résumées sur un seul support, un seul site internet, et que, comme il est librement modifiable, vous pouvez vous-même participer à la libre diffusion de la connaissance. Mais alors justement, c'est librement modifiable, donc le premier réflexe de n'importe qui, c'est de dire « Ah ben oui, mais si tout le monde peut contribuer, ben c'est forcément pas fiable. » Ben, on va voir que pas forcément. Alors on va entrer maintenant dans la troisième partie de cette conférence, c'est-à-dire comment assurer la fiabilité des informations sur Wikipédia. On va d'abord commencer par le tout début, la publication d'un article. Il faut savoir que sur Wikipédia, on ne peut absolument pas publier n'importe quoi. Il y a quelque chose qu'on appelle les critères d'admissibilité des articles. Ce sont des règles très précises qui définissent si un article peut être publié à un intérêt encyclopédique en fonction du sujet duquel il traite. C'est-à-dire que les critères d'admissibilité des articles vont varier selon les différents sujets, que ce soit alors, les personnalités politiques, le sport, les associations. On va avoir des règles très précises qui vont définir si tel ou tel article peut être admissible. Mais alors des fois, ces articles-là, ils vont être entre la non-admissibilité et l'admissibilité. On va donc à ce moment-là lancer des procédures qui vont être lancées par la communauté avec différents utilisateurs qui vont voter pour savoir si oui ou non cet article va rester sur Wikipédia. Alors ensuite, la deuxième étape, ce sont l'équipe de patrouille, donc les patrouilleurs. Alors qu'est-ce que c'est que l'équipe de patrouille ? Alors vous avez un joli logo là. Ce sont des bénévoles qui utilisent un outil qu'on appelle Live Recent Change qui affiche toutes les modifications de Wikipédia qui sont effectuées sur Wikipédia. Alors, à partir de ce canal-là, ils peuvent visualiser toutes les modifications qui ont été effectuées, comparer différentes versions d'un article, et puis ensuite, s'ils voient que les informations ajoutées sont fausses, ils peuvent ou les révoquer, avec un petit bouton qui doit être par ici, ou envoyer directement un message sur la page. Ça peut être une demande de sourçage, ça peut être une demande de wikification de l'article, c'est-à-dire ajouter des liens internes, des liens externes, ou tout simplement envoyer un message sur la page du contributeur qui a effectué la modification pour lui dire « Attention, ce que vous venez de faire, c'est du vandalisme. » Donc, ces différents messages, on les a ici. Il y a différents degrés d'avertissement. Alors le premier, bon, je l'ai fait sur la page de François Hollande, donc ça a automatiquement mis François Hollande en destinataire. Je ne sais pas s'il contribue beaucoup. Bon. Le premier, c'est ce qu'on appelle un test 1. C'est un message qui est destiné aux nouveaux contributeurs. Et pour pas trop les effrayer, on va tout simplement leur dire « Attention, la modification que vous venez de faire, ce n'est pas possible sur Wikipédia. » Il faudrait que vous alliez demander à un contributeur expérimenté pourquoi. Le second message, c'est un message d'avertissement pour les gens qui finalement vont ajouter une modification du style pipi caca, des insultes ou une série de caractères en plein milieu d'un article. Donc là, on va leur envoyer directement ce message-là. Et puis ensuite, celui qui est tout rouge, là, il y a deux versions. Ou unique avertissement ou dernier avertissement, ce sont des messages qui interviennent juste avant un blocage. C'est-à-dire que si on envoie ce message-là à un contributeur et que lui-même commet un nouveau vandalisme, eh bien il sera automatiquement bloqué par un administrateur. Et puis après, il y a des messages un peu plus complexes, donc j'ai mis un exemple. C'est un message d'annonce de suppression de page. Parce que là, en l'occurrence, la page serait trop publicitaire. Ou écrite sur un ton publicitaire. Alors, et après, qu'est-ce qui se passe une fois que ces deux étapes ont été franchies? Parce que forcément, il y a des vandalismes qui passent entre les mailles du filet. Il y a la relecture collective sur Wikipédia, il y a, comme tout le monde peut modifier la page, tous les utilisateurs qui vont s'intéresser à l'article et le lire vont pouvoir, si ils détectent une erreur, la corriger. Et puis les notes et les références qui vont approuver que telle ou telle information est bien vraie. Donc en cas de vandalisme récurrent, qu'est-ce qu'on fait ? On protège la page, donc un administrateur protège la page, c'est-à-dire que les utilisateurs non enregistrés ne pourront plus la modifier, et dans certains cas, que les utilisateurs inscrits depuis un certain nombre de jours, ça peut être 5 jours par exemple, donc les utilisateurs qui sont très nouveaux, ne pourront pas la modifier non plus. Alors vous avez là quelques exemples des pages qui sont protégées sur Wikipédia, donc la page du PSG, celle de Molière, alors celle de Prout, voilà ça, et celle de Justin Bieber par exemple. Donc ce sont des sujets très sensibles. Alors, il faut aussi prendre en compte que sur Wikipédia, le temps est un facteur de fiabilité, parce que plus le temps passe, plus les gens vont lire l'article, et donc plus il y a de chances que quelqu'un détecte l'erreur et la corrige. Comment reconnaître sur Wikipédia des articles qui ont plus ou moins de chances d'être fiables ? Alors, il faut savoir que c'est pas parce qu'un article aura un bandeau, on verra ce que c'est tout à l'heure qu'un bandeau, qu'il est forcément pas fiable. Mais c'est un indicateur qui fait qu'on vous avertit en fait que cet article n'a pas été vérifié finalement. Donc ces bandeaux, ça peut être celui-là, c'est celui que vous trouverez le plus fréquemment sur des articles. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Donc ça veut dire qu'on a tout un tas d'informations, mais qui ne sont absolument pas sourcées, absolument pas vérifiables. Et puis vous avez le deuxième bandeau, cet article est une ébauche. On a parlé tout à l'heure des ébaucheurs. Ce sont les gens qui créent les ébauches donc. Une ébauche, ça veut dire un article incomplet. Voilà. Alors, est-ce que tous ces moyens... Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous dire que il y a aussi un moyen de reconnaître les très très bons articles qui n'auront absolument aucune erreur, c'est-à-dire que sur certains articles de Wikipédia, vous allez voir une petite étoile à droite du nom de l'article, petite étoile jaune ou une petite étoile grise, qui va certifier que cet article est passé par une procédure communautaire de vérification complète des informations et qu'il a reçu un label de bon article ou de très bon article, qui certifie que l'article est fiable. Alors, est-ce que tous ces moyens déployés pour lutter contre le vandalisme et les faussetés sur Wikipédia sont efficaces? Alors, oui, mais ils ne sont pas infaillibles. On a plusieurs études qui sont intervenues. Par exemple, une étude du quotidien Nature, qui date de décembre 2005, alors décembre 2005, c'était il y a longtemps, hein, qui nous dit, finalement, en fait, ils ont comparé, ils ont pris un certain nombre d'articles scientifiques sur Wikipédia et sur Britannica, qui est donc une encyclopédie en ligne écrite par des professionnels, un peu comme l'Universalis. Ils ont comparé ces articles-là et ils ont trouvé sur Wikipédia 4 erreurs qu'ils qualifient de graves, alors je ne sais pas ce que ça représente, mais... Et sur Britannica, 4 erreurs graves aussi, donc 4 fautes dans les deux articles. Donc finalement, le niveau de fiabilité était largement comparable en 2005. Alors on peut se poser la question, est-ce que maintenant, en 2014, avec tous ces moyens de lutte contre le vandalisme qui ont été mis en place, est-ce que peut-être que maintenant, le taux d'erreur est identique ? Je pense que c'est fort possible. En 2005 encore, et en se basant sur cette étude, le taux d'erreur de Wikipédia par article scientifique était de 3,86 pour un taux d'erreur de 2,92 sur Britannica, donc sur une encyclopédie écrite par des professionnels. Donc alors déjà ça nous montre que sur des encyclopédies payantes, écrites par des professionnels, il y a tout de même des erreurs. Et il y en a presque autant que sur Wikipédia. On a une autre erreur, une autre étude, que je vous montrerai tout à l'heure, qui nous certifie que les professeurs utilisent également Wikipédia. Et là, on va voir que le guichet du savoir, qui est donc un site internet, utilise Wikipédia comme source, comme plusieurs autres sites. Mais alors celui-là, c'est un site fiable en l'occurrence. Ils nous disent, vous avez certainement remarqué que Wikipédia fait partie des sources que nous utilisons couramment, y compris sur des questions d'histoire. Ce ne serait certainement pas le cas si nous n'avions à maintes reprises constaté qu'il s'agit d'une source fiable. Donc on a des sites tout à fait fiables, que nous-mêmes utilisons comme source, qui certifient que Wikipédia est fiable. Et puis une dernière étude, alors celle-ci c'est une étude du Figaro, qui dit que 9 professeurs américains sur 10 utilisent Wikipédia pour leurs cours. Donc, dans le milieu des enseignants, américains, hein, pas en France, hein, en France il y a encore des progrès à faire, mais dans le milieu des étudiants, des professeurs américains, on a presque 90%, on est à 87% exactement, de professeurs qui utilisent Wikipédia pour leurs cours. Donc ça, ça peut être utilisé également comme un indice de fiabilité. Cette conférence est terminée. Je pense qu'on va passer maintenant à une petite séance de questions-réponses pour clôturer tout ça. Donc, allez-y.
J'avais une précision. Une question. La précision, c'est le nombre d'articles en breton. Il y en a 51 430.
D'accord, merci.
Donc, 51 000 articles en breton. Juste une question pratique, parce que je n'avais pas bien compris. En fait, si on va parler sur plusieurs langues, est-ce qu'il est plus pratique de créer plusieurs comptes ou de garder un seul compte?
Alors, les comptes qui sont créés, en fait, sont directement... sont créés sur toutes les langues et sur tous les projets. Donc, quand vous créez un compte, il sera disponible sur absolument toutes les Wikipédia et sur tous les projets frères, donc comme j'ai dit, Wikimedia Commons et tout le reste.
Donc après, c'est à nous de faire une page multilingue en se présentant.
Ah oui, après par contre, il faut se présenter dans chacune des langues. Oui.
Je trouve très intéressant que la présentation soit mise en licence Creative Commons non commercial, parce que je me demandais pourquoi Wikipédia Commons n'accepte pas les licences non commerciales.
Si, Wikimedia Commons, ça accepte les licences. Ah si, les licences non commerciales. Ils ont décidé de faire comme ça. Ils voulaient rester dans la pure licence libre, c'est-à-dire dans la licence libre utilisable également commercialement. Et c'est ce choix qu'ils ont fait de ne pas de permettre l'utilisation de leurs images dans un but commercial. Mais c'est leur choix de la Wikimedia Foundation. Dans un esprit toujours de garder la licence la plus libre possible. Mais on peut également sur Wikimedia Commons placer ses contributions sous licence GNU par exemple. D'autres questions? Oui.
Les principes que vous avez décrits sont par langue, par pays, par.
Ils sont universels. Les principes fondateurs?
Pas les principes, mais les équipes de patrouilleurs.
Oui, alors.
Les patrouillers, est-ce que. Par exemple, sur un sujet politique français, vous pensez que les Français seront plus adaptés pour vérifier certaines choses. Et comme Wikipédia marche par langue, est-ce qu'on va faire en sorte que sur des conflits scientifiques, linguistiques, les Québécois ou les Belges vont pouvoir voir le français pour voir le contenu de la page FR Wikipédia?
Alors, faut savoir déjà que FR Wikipédia, ce n'est pas comme souvent. On appelle les médias Wikipédia en français, sinon Wikipédia francophone. Le nom officiel, c'est francophone. Donc le canal de patrouille utilisé sur Wikipédia, francophone donc, il est accessible aux Belges, aux Canadiens, aux Français, en fait finalement à tous ceux qui iront consulter Wikipédia en français. Après, les canaux de patrouille changent selon les différentes langues. Donc c'est-à-dire que le canal de patrouille anglais n'est absolument pas le même que celui en français. Et sur, par exemple, Wikipédia en breton, justement, il y aura un nombre de patrouilleurs bénévoles qui sera beaucoup moins important que sur une Wikipédia ayant un nombre d'articles assez conséquent, comme par exemple la Wikipédia francophone.
Une autre question à poser qui est peut-être sur un plan particulier. J'ai regardé une page que je voulais modifier sur Wikipédia français et mettre un fait que c'était. La même page adaptée à la demande. J'ai pas pu faire en sorte que ça m'écrit le même personnage. Ça m'a dirigé le travail. Et on voit bien que tu parles du même personnage, j'ai à cœur que j'ai fait pour une page de mathématiques, puisque c'est une discipline, faire en sorte que ce
cohort s'est fait. Alors, comment ça, vous n'avez pas pu?
Eh bien, quand j'ai dit que sur la même page, c'était un atelier, quand on clique sur la page française, on voit que si on clique sur l'angle français, à la belle bande de l'angle anglaise, on pose sur l'équipe de l'article équivalent.
Mais vous avez saisi les paramètres HTML pour la commande HTML et ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à faire en sorte que les pages soient pareilles alors que ça parle de personnages. Donc il y a la page anglaise allemand, elle communique, mais la page anglaise. Et donc la question, c'est pas à qui on s'adresse lorsqu'on a un profil qui est de dire c'est pas cohérent qu'on puisse pas dire que le personnage, ça doit être la page traduite.
Alors là, vous vous adressez au salon général de discussion, il y a tous les administrateurs et tous les contributeurs qui discutent, qui s'appelle le bistrot. Donc si vous tapez dans la barre de recherche wp://lebistrot, vous aurez accès à cette page-là, qui est une page interne, et vous pourrez poser votre question qui est assez technique.
Et en anglais, en allemand et en français?
Et là, ça sera en français, ils vous répondront en français. Ça, ils vous répondront en français. Vous avez des questions?
Oui, j'avais une question à propos du groupe local de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se fait, au niveau du groupe par rapport à ce qui se fait au niveau du Suédois national et autres?
Alors, moi, je vous parlais de ce qui se fait au niveau local, au niveau régional. On intervient surtout sur Toulouse. Après, de temps en temps, on peut aussi se permettre d'intervenir dans des cas exceptionnels dans d'autres villes de la région, mais on ne dépasse en aucun cas la région militaire. On a plusieurs domaines sur lesquels on intervient, principalement l'éducation et la photo. C'est-à-dire que sur le groupe local de Toulouse, on va bientôt recevoir un appareil de service de l'association, qui sera, pour les connaisseurs de photo, un Canon EOS 5D Mark III, donc un des meilleurs appareils sur le marché. Et chaque bénévole aura son appareil personnel pour le moment. Et on intervient sur différents festivals, différents salons, par exemple, en tant qu'accrédité presse pour alimenter la base de données Wikimedia Commons. Alors ça, c'est uniquement sur le plan photographie, c'est un peu la spécificité du groupe local de Toulouse, on intervient beaucoup sur ce projet-là. Et à côté, il y a pas mal d'autres projets, comme par exemple la recherche et l'éducation. On a notamment des partenariats avec la mairie, le muséum de Toulouse et l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Voilà. Et on travaille également sur un partenariat avec le rectorat afin de former les professeurs dans la région. Les former à l'utilisation de Wikipédia, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Oui.
Au niveau justement de la formation des professeurs, comme vous l'avez dit, en France, il y a toujours une certaine résistance.
Il y a une résistance qui se fait sentir.
Et en fait, il y avait un professeur qui avait résumé ça dans un article qui s'appelle Neil Watson, et il avait écrit un article qui disait pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas citer Wikipédia dans la classe. Enfin, c'est en anglais, mais je ne vous ai pas un accent. Et l'idée en fait pour lui c'était que Wikipédia permettait une démocratisation de l'accès à l'information, mais aussi parfois permettait une démocratisation de l'information elle-même. C'est-à-dire que l'information n'était pas vraie par rapport à des faits vérifiables, mais par rapport à une opinion populaire. Qui n'est pas la même définition au niveau de la vérité. Du coup, est-ce que, à ce niveau-là, enfin, comment est-ce que vous faites pour aller au-delà de la résistance des professeurs à ce niveau-là en disant que, enfin, la plupart du temps, ce qu'eux ils disent, c'est que Wikipédia n'est pas fiable, mais surtout Wikipédia n'est pas stable.
Nous, on intervient surtout sur le point de Wikipédia n'est pas fiable. Il faut savoir qu'en Haute-Garonne, déjà, les formations n'ont pas encore débuté. Elles vont commencer à se faire en milieu d'année, là, du coup, elles ont été retardées. Ce qu'on leur dit finalement, déjà on leur explique le fonctionnement interne de Wikipédia, comme je vous l'ai présenté ici, et puis ensuite on essaye de leur poser des questions, alors qu'est-ce qui vous gêne sur Wikipédia? Et puis on leur répond, non pas par notre avis personnel, mais par des études qui ont été réalisées. Ce qui permet, dans certains cas, de débloquer la réticence des professeurs à utiliser Wikipédia. Et puis, surtout, de les informer sur les progrès de l'encyclopédie, parce que c'est vrai qu'à un certain moment, la fiabilité de Wikipédia était ridicule, notamment lors de sa création.
Et à ce niveau-là, du coup, on peut participer nous-mêmes, même sans être contributeur Wikipédia ou un patrouilleur comme vous? On y va en tant que bénévole.
Alors, moi, je ne suis pas de Wikipédia directement, je suis de Wikimedia France. Je suis formateur chez Wikimedia France. Je suis aussi le coordinateur régional, justement, pour le projet éducation. Donc, si jamais vous voulez vous investir sur ces projets-là, vous venez me voir tout à l'heure et puis je vous remercierai.
Pour revenir sur les professeurs, je voudrais retransmettre un témoignage. Dans ce cas-là, je comprends un peu la réticence des professeurs de faire du bref. Pour un enseignant, la difficulté de Wikipédia, c'est que ça permettait à ses élèves de vérifier tout ce qu'ils disaient auprès de ses élèves. Donc, il n'avait plus la mainmise du savoir. Le savoir était arrivé par l'autre biais que lui-même. Et personnellement, je comprends tout à fait que ça le déstabilise. La fin de l'histoire, c'est que les PC ont été interdits pendant ces cours.
Mais je trouve que c'est franchement dommage, parce que c'est le progrès de pouvoir accéder à la totalité du savoir humain sur Internet, et l'interdire sous prétexte que ce monsieur est un dépositaire du savoir, je trouve que c'est pas très intéressant, dans le principe même.
C'est humain.
C'est humain. C'est
ouais, il y a oui. Surtout quelque chose, c'est dans l'éducation, le gros problème que je vois avec Wikimedia, que j'ai tout le temps utilisé, hein, c'est surtout que ça ne diversifie pas les sources et qu'un étudiant devrait quand même chercher différentes sources pour voir la fidélité, justement. Ça enlève tout ce travail de chercher par soi-même les différentes sources.
Alors, les sources sont toutes résumées en fin de l'article. Donc, si un étudiant veut par lui-même aller chercher ces informations-là, il peut directement passer par Wikipédia. S'il veut s'amuser à reconstruire l'article, non pas le lire, mais aller sur les différentes sources qui sont citées en fin d'article, et puis écrire lui-même alors, sa rédaction ou quoi que ce soit.
Oui, je pense aussi à ça, c'est un des premiers avantages que je vois avoir pour l'histoire de Wikipédia, c'est qu'on peut lire des faits historiques dans diverses langues. Et déjà, ça donne souvent une approche différente. C'est-à-dire, regarder l'histoire de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, en anglais et en allemand, en italien, ça permet d'avoir déjà une approche différente de celle qu'on peut trouver traditionnellement. On lit des livres d'histoire, même l'encyclopédie, si vous pouvez comparer, l'encyclopédie, elle est achetée dans votre langue. Vous contrôlez un fait historique ou une bataille dans plusieurs langues, c'est déjà une vertu qui est au début, ça revient à l'insister, toujours avec une institution.
Voilà. Effectivement, ça permet une approche différente, mais il y a toujours la neutralité de point de vue. Donc finalement, on aura les mêmes informations qui seront résumées dans les deux langues, par une approche différente, effectivement, mais pas plus.
Oui, mais la seule différence de quantité d'informations.
Oui.
C'est
vrai.
Oui. Ah oui, justement, je voulais juste te dire que si l'information n'est pas faite la même sur ce
sujet. Ah, il est en fait trouvé.
En anglais ou en allemand ou en italien, ça veut justement dire qu'il n'y a pas de neutralité ou en fait qu'il y a des points de vue différents. Et
ben
moi, personnellement, je ne pourrais pas aller lire l'article en
50
différentes.
Je ne
peux pas
parler de ces langues. Je pense que l'exemple que j'ai écrit, une page Wikipédia en français sur l'article, eh bien, regarder l'article en allemand, en anglais et en italien, c'est des approches très différentes. On sait, les anglais commencent toujours par donner les exemples et la théorie après. Dans les pages françaises, en principe, les gens commencent par donner la théorie, puis l'exemple après, et c'est des approches qui sont très différentes de notre but. Même si le cœur et le résultat est le même, et une approche différente de la présentation,
oui.
Qui est quelque chose qui enrichissant.
En fait, ce ne sont pas les informations qui varient, c'est l'approche qu'ont les contributeurs, la structure de l'article qui change en fonction de la. Et moi, je voulais revenir sur les articles d'histoire. C'est vrai qu'on peut avoir certaines différences. Quand on change la langue de l'article, tout simplement parce qu'il y a certains événements historiques, comme par exemple des batailles, seront pas dans les livres d'histoire d'autres pays, mais dans les nôtres, oui, qui seront donc résumés sur la Wikipédia francophone et non pas sur la Wikipédia anglophone ou la Wikipédia russe. D'autres questions ? De toute façon, de déterminer dans 3 minutes. Donc, on est dans les temps.